Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le 23e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. On a tendance à l'imaginer dans les laboratoires, les amphithéâtres ou les bibliothèques, mais la linguistique est avant tout une science du terrain. L'analyse des langues est en effet intimement liée à celle de leurs locuteurs, les populations qui font vivre leur culture et leur identité à travers elles. Notre invité du jour a, tout au long de sa carrière, travaillé au plus près des populations étudiées, avec en filigrane la perception d'une idée simple. La linguistique est aussi une réponse aux besoins de compréhension, de reconnaissance et de valorisation des populations en lien direct avec leurs pratiques et leur histoire. La linguistique de terrain au service de la population, c'est le programme de Vox, épisode 23. Je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui au micro de Vox Anaïde Donabedian-Demopoulos, professeur des universités, responsable des études arméniennes à l'INALCO, membre du laboratoire CEDIL, structure et dynamique des langues, et directrice adjointe du LABEX EFL. Bonjour Anaïde.
Bonjour Maxime.
Vous faites partie des grandes spécialistes de l'arménien occidental moderne. Quels sont vos liens avec cette langue et les travaux que vous avez menés à ce sujet ?
Eh bien, bon, je dois quand même dire que mon premier lien avec cette langue, c'est que c'est ma langue maternelle. C'est la langue dans laquelle on m'a parlé dans ma première enfance, avant que je sois scolarisée, enfin, que j'entre à l'école maternelle. Donc, c'est quand même une langue qui, pour moi, est un attachement personnel fort. Mais je pense qu'au fil de ma carrière, j'ai réussi à conjuguer cet attachement personnel avec une approche scientifique diversifiée et approfondie, ce qui est pour moi, bien entendu, un grand bonheur. Donc, j'ai commencé à me spécialiser dans l'arménien occidental en termes de recherche. Après avoir fait, en fait, au départ, moi, j'ai une formation de russisante. Je suis agrégée de russe. Et parallèlement à mes études de russe, j'ai aussi mis à jour mes connaissances en arménien, en fait, à l'INALCO. Donc, c'est au moment du doctorat que j'ai décidé de me spécialiser dans l'arménien parce qu'il y avait beaucoup plus de questions non résolues. Il y avait moins de chercheurs, en fait, qui travaillaient sur cette question. Et donc, j'ai consacré mon doctorat à une étude de corpus, en fait, sur l'arménien occidental. C'est-à-dire que j'ai été, je pense, une des premières à constituer un corpus électronique sur lequel j'ai fondé les recherches qui ont donné lieu à mon doctorat. Et puis, j'ai eu la chance ensuite d'être recrutée à l'INALCO dans le poste que j'occupe toujours jusqu'à aujourd'hui et donc de pouvoir me consacrer à la linguistique arménienne sous des aspects très divers depuis le début de ma carrière, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans.
Avec un intérêt particulier pour la diachronie et la diatopie. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ces termes ?
Oui, bien sûr. Alors, au-delà des termes, il y a un concept et ces concepts-là sont incontournables, en fait, quand on s'occupe de l'arménien occidental. Donc, dia en grec, ça veut dire à travers et chronos, c'est le temps, donc, et topos, c'est le lieu. Et donc, la diachronie et la diatopie, c'est une façon de désigner la variation d'une langue dans le temps. Donc, en fait, son évolution diachronique ou dans l'espace. Et donc c'est ça qu'on appelle la diatopie. Souvent on appelle ça aussi de la dialectologie, mais la diatopie est un concept plus large en réalité. Donc pourquoi en fait ce sont des notions incontournables pour l'arménien occidental? Parce qu'en fait l'arménien occidental c'est la langue que parlaient les Arméniens de l'Empire ottoman. Jusqu'au 19e siècle, en fait, la langue d'éducation et de la langue littéraire pour l'arménien, c'était l'arménien classique, donc une variante de langue essentiellement écrite, qui n'était plus une langue parlée pour personne, mais qui était considérée comme la langue de prestige. Et au 19e siècle, au début du 19e siècle, d'ailleurs, enfin, c'est un cheminement un peu plus complexe et plus riche, mais disons qu'il y a une bascule qui s'est faite au 19e siècle lorsque les Arméniens ont décidé d'adopter la langue moderne comme langue d'enseignement et de littérature. Et ce passage, cette standardisation, donc en fait, il s'agit d'une standardisation de la langue parlée, elle s'est faite dans deux espaces parallèles, qui n'étaient pas sans avoir des contacts entre eux, mais qui étaient politiquement séparés par une forte frontière, une frontière entre deux empires, l'Empire ottoman d'une part et l'Empire russe de l'autre. Et c'est ainsi qu'on a obtenu deux variantes standards, la variante arménienne orientale, qui est fondée sur des dialectes orientaux, qui ont des caractéristiques linguistiques différentes, et l'Arménie occidentale, donc du côté ottoman, qui se fondent sur des dialectes différents. Alors, les différences entre ces dialectes, elles n'empêchent pas l'intercompréhension pour des gens qui ont une bonne compétence en langue, mais elles sont assez clairement marquées et elles sont aussi le reflet, en fait, de ce qu'on appelle aussi la linguistique aréale, c'est-à-dire la sensibilité des langues à l'espace dans lequel elles se situent. Et bien entendu, dans l'espace, il y a une dynamique de rapprochement et d'éloignement entre différentes variantes, mais il y a aussi la question du contact avec les autres langues. Les langues, on le sait, par exemple, même en France, on sait très bien que dans les régions frontalières, on ne parle pas de la même façon qu'au centre de la France, etc. Et donc, pour l'arménien, ces questions-là sont incontournables parce que, alors, l'arménien oriental, lui, il a eu le destin d'une langue d'État, même si c'est une langue, ça a toujours été un État multilingue avec la situation dans un empire. L'arménien oriental est quand même la langue officielle a été la langue officielle de l'Arménie soviétique, puis de la République d'Arménie maintenant. En Arménie, on dit que c'est l'arménien moderne. On ne précise pas que c'est l'arménien oriental qui est la langue officielle, mais en réalité, dans la pratique, c'est la langue orientale. Et là, l'arménien occidental s'est retrouvé dans une situation de langue de diaspora, c'est-à-dire sans centralité, en fait. C'est-à-dire, il y a eu, à la suite des efforts de standardisation qui ont eu lieu dans l'Empire ottoman, où la centralité était représentée par Constantinople, avec la disparition des terroirs arméniens et la dispersion des survivants du génocide arménien, eh bien, la langue s'est retrouvée une langue pluricentrique avec différentes façons de la parler selon les endroits où on se trouve. Et ça, c'est une question à laquelle j'ai été confrontée dès le début avec ma thèse, puisqu'il fallait que, quand je construisais un corpus, il fallait que je sélectionne un échantillon représentatif, mais représentatif de quoi ? Donc c'est pourquoi j'ai travaillé plutôt sur l'écrit, parce que il y avait des questions que je pouvais pas résoudre tout à la fois dès la thèse, mais c'est justement sur ces questions-là que je me suis intéressée après, en creusant cet aspect de variation. Donc variation dans toutes les dimensions, en fonction des contacts avec les autres langues, en fonction du temps. Donc il y a des évolutions typologiques internes, comme dans toute langue. Et puis, il y a des évolutions qui sont liées au contact. Donc, il y a une combinaison entre ces deux facteurs qui joue et un des axes de recherche de ce qu'on appelle la linguistique aréale ou la typologie aréale.
Cette dimension aréale, justement, parlons-en. Vous êtes une spécialiste de l'ère Proche-Orient, Caucase, Iran, et vous êtes d'ailleurs co-directrice du laboratoire LACIM, réseau européen de recherche sur la linguistique et les langues de l'ère Anatolie, Caucase, Iran, Mésopotamie, une zone de contact linguistique forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos travaux à ce sujet, notamment avec tous vos collègues ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est pas un laboratoire et je suis pas directrice. Disons que, en fait, dans le cadre du LabEx Eiffel, on a monté une opération qui était consacrée au contact de langues dans cette région. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous ceux qui travaillent sur des langues de cette région, donc il y a des langues de familles très différentes qui sont en contact étroit dans cette région. Donc, il y a l'arménien, c'est une langue indo-européenne. Il y a aussi le kurde, qui est une autre langue indo-européenne, des langues ouest-iraniennes, donc qui fait partie de la branche ouest-iranienne. Il y a du persan. Il y a des langues caucasiques, trois familles de langues caucasiques qui sont représentées dans le Caucase, qui sont aussi au contact avec l'arménien. Il y a les langues turciques. Il y a les langues sémitiques, notamment avec, il y a l'arabe levantin, mais il y a aussi le néo-araméen avec ses différentes variantes, ces différents groupes de dialectes. Donc, et puis il y a aussi des langues mixtes dites tziganes, donc avec notamment le lomavren, hein, les langues, on a le romani, le domari, et le lomavren. Le lomavren, c'est une langue tzigane qui est avec, qui a pour langue lexificatrice l'arménien, justement. Donc dans toute cette région qui est appelée aussi pocha en Turquie. Donc dans toute cette région qui est, disons, une grosse tache autour de l'est de l'Anatolie, c'est-à-dire en fait l'est, l'Anatolie orientale, si vous regardez les cartes de l'Antiquité, ça s'appelle le plateau arménien. Donc vraiment on est au cœur, c'est-à-dire que quand on est arméniste, on sait très bien que le contact avec toutes ces langues a fait l'histoire de la langue et que en fait on ne peut pas travailler seul sur cette variation. Donc la création de ce réseau avait pour objectif, donc au départ cette opération avait pour objectif de créer des cartes multiparamètres pour un vaste échantillon de langues de la région. Compte tenu des moyens qu'on avait, notamment des moyens humains, ça a été difficile à réaliser. On a ouvert un certain nombre de pistes, mais c'est la raison pour laquelle on s'est, donc avec Paulette Saint-Vélian, qui est elle-même spécialiste de persan et de langues iraniennes de manière plus générale, on a souhaité, autour de cette opération, créer un réseau en réunissant les forces d'autres équipes qui sont spécialisées sur la variation d'autres langues. Par exemple, à Cambridge, il y a l'équipe de Jeffrey Kahn qui travaille sur la variation du néo-araméen. On a à Bamberg Jeffrey Haig qui a travaillé sur le kurde. On a des collègues qui travaillent sur le grec, la variation du grec et le grec anatolien. Notamment, j'ai coécrit avec Johanna Sitaridou, qui a été aussi professeure invitée de la chaire d'excellence du LABEX. Donc, nous avons rédigé le chapitre Anatolie du volume de Routledge. Manuel de contact sur la linguistique aréale qui était dirigé par Yaron Matras et Evangelia Adamou. Donc on a publié ce chapitre sur l'Anatolie. Johanna travaille sur le grec anatolien. Donc c'est en réunissant ces forces-là qu'on espère pouvoir parvenir à une échéance, certes pas proche, mais déjà par bribes à s'approcher de cela, à une sorte de carte interactive qui pourrait croiser les paramètres de variation de ces différents dialectes dans ces différentes régions, parce que c'est aussi des régions dans lesquelles il y a eu des changements de religion, il y a eu des changements d'identité, notamment pour des questions de survie. Et aujourd'hui on sait que en Turquie on estime qu'il y a environ 2 millions de crypto-arméniens qui en fait sont intégrés dans des communautés alévis, kurdes, etc. Donc, qui parlent les langues de ces communautés-là, en fait, qui la plupart du temps ne parlent plus l'arménien, mais où, par exemple, on peut considérer que l'arménien constitue un substrat, du coup, pour ces dialectes, quand il y a une quantité importante de gens qui ont changé de langue dans une localité, eh bien, ça impacte nécessairement la façon de parler la langue du coin. Et comme les identités sont très fortes dans cette région, on a l'habitude de séparer ces questions-là en fonction des identités ethniques, donc arméniens, kurdes, turcs, etc. Or, en réalité, c'est en prenant tous ces dialectes ensemble qu'on peut arriver à avoir une vraie vision de ce que fait le contact de langue aux langues, à la typologie de ces langues, à leur structure, à leur organisation interne. Donc nous avons déjà fait plusieurs colloques. Donc la création en tant que telle du réseau a eu lieu lors du premier colloque LACIM qui était il y a 2 ans à l'INALCO. On va en avoir un nouveau cette année qui va être thématique cette fois-ci. Le premier était généraliste, il était fait pour fonder le réseau. Donc on a un comité scientifique, il n'y a pas de directeur, c'est un réseau, mais on a un comité scientifique dans lequel on a un comité scientifique permanent. En fait, dans lequel il y a des spécialistes des langues, des groupes de langues majeures de cette région. Et donc là, le prochain colloque donnera lieu, qui est consacré à la grammaticalisation dans cette région, parce que c'est des schémas qui peuvent très facilement se diffuser d'une langue à l'autre, les schémas de grammaticalisation, c'est-à-dire la manière selon laquelle une tournure qui au départ peut avoir l'air d'être une tournure libre, comme quand on dit en français être en train de faire, où on a l'idée d'un train, c'est-à-dire d'un cheminement, et puis où finalement ça a une valeur grammaticale qui est du présent progressif. Hein, c'est ça qu'on appelle la grammaticalisation, c'est quand train ne veut plus dire train dans être en train de, mais veut dire a une valeur grammaticale, et puis il y a un stade ultime d'intégration, de grammaticalisation qui va être la morphologisation. Quand vous dites en français je mangerai, c'est ça a à voir avec j'ai à manger, c'est-à-dire il faut que je mange, et ce est qu'on a à la fin de manger, eh bien il résulte de la grammaticalisation d'un verbe avoir. Donc, ces phénomènes-là, ils seront le cœur de ce colloque, et il y aura un volume collectif qui va en être issu.
Et parmi tous les outils concrets que vous avez pu créer au cours de votre carrière, il y a aussi le dictionnaire en ligne Parastan pour permettre un peu l'acquisition du vocabulaire de l'arménien occidental. En quoi c'est important pour vous de construire des outils modernes, attrayants, pour favoriser la pratique des langues?
Alors, en fait, il faut, pour vous expliquer ça, il faut que je revienne un petit peu aussi à mon parcours personnel. C'est qu'en fait, bon, dans la première partie de ma carrière, j'ai essentiellement centré mon travail sur la description de l'arménien, la réflexion sur les questions typologiques, sur les questions de catégories, sur les questions de construction du système verbal, etc. Et en fait, entre 2013 et 2016, j'ai eu la chance d'avoir une affectation au sud par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est aussi une des tutelles de notre laboratoire et aussi du LabExEFL, un des partenaires du LabExEFL. Donc j'ai été affectée pendant 3 ans au Liban pour faire un travail sur justement le contact de langue, sur la variation linguistique. Et en fait, ce séjour m'a permis d'être au contact d'une société locutrice d'arménien occidental très compacte à Beyrouth, qui est en fait un des rares, c'est vraiment au Proche-Orient aujourd'hui qu'on trouve les sociétés dans lesquelles l'arménien occidental est encore vernaculaire de façon compacte. Et le contact avec cette société et la conjonction aussi avec le fait que j'étais là-bas pour l'IRD, dont la mission est quand même de faire une science qui réponde à une demande sociale, eh bien, ça m'a beaucoup sensibilisé à ces questions, justement, de réponse à la demande sociale. C'est-à-dire, d'une certaine façon, une fois que j'avais fait mes preuves par la science, d'ouvrir un autre aspect de ces questions-là avec un retour sociétal, donc toute la dimension valorisation. Une des choses qui était omniprésente dans le discours de cette communauté, en fait, que j'ai pas fréquenté que cette communauté-là à Beyrouth, mais c'était un des lieux dans lesquels j'ai travaillé, eh bien, c'était une sorte de traumatisme issu de la déclaration de l'introduction de l'Arménie occidentale dans l'Atlas des langues en danger de l'UNESCO en 2010. Donc moi, c'était 3 ans après que j'y suis allée. Et une sorte d'état de sidération qui venait de là, c'est-à-dire à la fois ça rencontrait un sentiment que tout le monde avait, qui était qu'il y avait un déclin de la langue. On sait bien qu'avec les sociétés, la modernisation de la société, il y a de plus en plus aussi de monolinguisme, et c'est de plus en plus difficile de survivre pour beaucoup de langues, même le français d'ailleurs, on pourrait le dire d'une certaine d'une certaine façon. Et donc, a fortiori pour des langues minoritaires comme l'arménien. Mais le fait que ce soit énoncé par une instance extérieure, c'était vraiment considéré comme une alarme. Et donc, moi, tout depuis que je suis professeur à l'INALCO, ma mission, c'est de transmettre la langue, j'enseigne la langue aux étudiants, j'enseigne sa linguistique, mais aussi, je fais aussi des cours de langue, de grammaire, pour aider les étudiants à acquérir des compétences en langue. Donc, c'était pas nouveau pour moi, mais c'est sûrement aussi parce que cette introduction dans l'Atlas de l'UNESCO a aussi créé une certaine forme de possibilité de financement nouvelle. Et puis, le fait d'être à Beyrouth m'a permis de travailler en équipe avec un collègue qui est linguiste là-bas aussi. Et donc, ce projet est né, le projet de ce dictionnaire en ligne Parastan, qui au départ, c'était le projet d'une de mes étudiantes de master de maîtrise de l'INALCO qui voulait rédiger un volume du mot et l'idée, qui est une collection d'offrises de lexique thématique. Et puis, bon, elle s'était vite rendue compte que c'était impossible à faire seule. Et donc, dans cette nouvelle configuration, j'ai eu l'idée de relancer ce projet. Donc, j'ai repêché cette étudiante. Et puis, avec le collègue libanais, on a travaillé. Et on s'est rendu compte que c'était préférable de faire une version électronique parce que, là encore, à trois pour faire ce travail-là, on est abouti à un dictionnaire de 35 000 mots. C'est énorme. Et en fait, il y a tout le temps, toujours des imperfections à corriger. Et donc, le support électronique nous permettait de diffuser notre travail sans attendre, tout en sachant qu'il était encore perfectible. Donc, ce travail nous a on a commencé en 2013 et on a présenté le dictionnaire au public. Donc, le plus gros de la subvention est venu de la fondation Carlos Gulbenkian du Portugal, avec laquelle j'ai pas mal travaillé parce qu'à partir ça a coïncidé avec le moment où j'étais au Liban, ils ont lancé un plan quinquennal de soutien à l'Arménie occidentale. Donc, ils ont lancé un certain nombre d'appels à projets. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu le financement principal, mais l'IRD a abondé, le LABEX, EFL a abondé, etc. Et donc, on a actuellement ce dictionnaire qui est en ligne. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant qu'il est en ligne, qu'il est un peu stabilisé, même si on continue à travailler dessus, on a été contacté cette fois-ci par Ofris. Et donc, on a repris ce projet de faire une collection du mot et l'idée. J'espère qu'il va pouvoir sortir l'année prochaine ou l'année suivante, parce qu'il faut réduire le vocabulaire, c'est plus que 10 000 mots, il faut les sélectionner. Donc il y a des défis supplémentaires. Et puis, bien entendu, chaque fois qu'on ouvre Parastan, on trouve toujours des corrections à faire. Donc voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment une façon d'avoir un rayonnement au-delà de l'INALCO, la section d'arménien de l'INALCO, puisqu'avec un outil en ligne de cette sorte, eh bien, on peut avoir un impact mondial sur une diaspora qui est dispersée. C'est quand même essentiel.
En lien avec ce sujet-là, justement, j'aimerais vous entendre un petit peu sur votre conception, votre philosophie, en fait, qui sous-tend votre travail. On a justement l'impression que vous concevez la linguistique en lien avec les besoins concrets des populations, des habitants, des territoires sur lesquels vous travaillez. Est-ce que, selon vous, la linguistique doit avant tout se concevoir dans cet espace d'accompagnement des besoins du quotidien des locuteurs ? Quelle est votre philosophie derrière ça ?
Je pense que la linguistique, c'est sans doute une des disciplines les plus polymorphes de aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une façon et un diapason énorme de la façon dont on peut travailler en linguistique. Donc, je dirais pas qu'elle doit uniquement travailler là-dessus, bien entendu. Comme toutes les sciences, en fait, elle a un volet plus fondamental, qui va se poser des questions théoriques, qui va créer des cadres de réflexion, des cadres de pensée qui vont permettre de formuler des hypothèses et de mettre en évidence des modèles, des généralisations, etc. Donc ça, c'est la dimension plus fondamentale. Et puis, c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, que ce soit en linguistique ou ailleurs, on est dans des sociétés de plus en plus pragmatiques et en fait, chacun, je crois que tout un chacun de nous, prend conscience en fait de cette demande de la société, d'un retour en fait, ce qu'on appelle une utilité. Alors, j'aime pas utiliser ce terme parce que là, tout ce qui est fondamental est utile aussi, mais c'est une utilité qui n'est pas perceptible à la société immédiatement. Et donc, en fait, c'est une part de notre travail, oui, doit être perceptible immédiatement par la société quand c'est possible, parce que là encore, certains domaines de la linguistique ont beaucoup plus difficilement accès à cette réflexion-là, à cette dimension-là. Bon, j'ai de la chance, je travaille sur une langue qui est impliquée dans un grand nombre de problématiques sociales, politiques, des questions de dispersion, les questions de diaspora, les questions de réseaux transnationaux, les questions de société pluriculturelle, les questions de minorisation, les questions de statut, de prestige social. Donc en fait, il y a toute une dimension interdisciplinaire qui facilite beaucoup cette réflexion-là. Alors, donc ça c'est vraiment, je dirais, c'est une chance. Donc c'est peut-être pour ça aussi que au LABECS, j'ai fait partie de la première équipe qui a réfléchi aux questions de valorisation. Dans la première période du LABECS, on avait fait une sorte je me rappelle plus comment on avait nommé ce format, mais une sorte de concertation générale sur ces questions. On avait ouvert plusieurs orientations, donc que ce soit en traitement automatique des langues, où là on voit bien qu'il y a des applications immédiates, dans l'enseignement et la didactique, la linguistique pour l'enseignement et la didactique, il y a aussi des applications immédiates. Il y a des réponses à la demande des gouvernements. Par exemple, nous on a des collègues qui travaillent dans les DOM-TOM. Et le gouvernement français est en demande de questions sur comment enseigner les langues maternelles des autochtones dans les différentes. On a des collègues de mon laboratoire qui travaillent beaucoup sur ces questions en Guyane, par exemple. On avait comme ça tracé plusieurs orientations, tout simplement parce que moi j'avais une sensibilité à ça du fait de la langue que j'étudie, et puis aussi du fait que je vous disais, ce séjour dans le cadre de l'IRD m'a obligée à travailler en interdisciplinarité avec d'autres collègues qui étaient sur place et qui travaillaient sur d'autres sujets. Voilà, c'est plus le paradigme qu'il y avait quand j'ai commencé mon cursus, où au contraire, on attendait de nous qu'on soit des gens un peu hors sol et très solides. Alors, il y avait des approches plus ou moins théoriques, plus ou moins empiriques, mais dans tous les cas, disons qu'il fallait être scientifiquement très solide et presque à la limite, on pourrait dire que de trop s'occuper de la demande sociale pouvait paraître être un aveu de faiblesse du côté de ce qui était censé être notre vocation première. Ça n'est plus, on n'est plus du tout dans cette perception-là, et bien entendu, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est tout à fait légitime.
Quelques petites questions maintenant pour terminer sur votre présent et aussi votre futur. Rapidement, je voudrais évoquer le master que vous avez créé à l'INALCO, une formation de master international en études arméniennes hein, depuis 2020. Quelle a été la réflexion qui a présidé à la création de cette formation?
Alors, tout à fait dans la logique de tout ce dont je viens de vous parler maintenant, je pense que c'est vraiment le projet pour moi le plus enthousiasmant, le plus gros défi. C'était un défi énorme, mais qui me, comment dire, je pourrais dire qui va qui vient, je le crois, couronner ma carrière d'une certaine façon et qui est centré sur le fait d'être utile à des personnes, d'être utile aux étudiants, de répondre à une demande, de répondre à un manque en fait. Alors ce master, il est tout à fait dans la suite d'un certain nombre d'activités que j'ai enclenchées au moment où j'étais au Liban justement. J'ai participé à une commission qui a travaillé sur l'auto-évaluation des écoles arméniennes du Liban dans le cadre d'un projet de la Fondation Gulbenkian. J'ai travaillé dans une commission mixte qui a évalué les besoins des établissements, la réflexion sur la vocation de ces établissements, le rôle de la langue dans cette vocation, parce que on voit qu'il y a une intrication très forte entre langue et identité, mais le fait de les intriquer totalement finit par brouiller le message et par empêcher d'avoir des résultats tangibles sur la langue elle-même, par exemple. Donc toute cette réflexion, elle a conduit, là encore avec la Fondation Gulbenkian, à créer d'abord la Fondation a créé un camp, en fait, un camp d'été pour des jeunes, totalement en arménien et centré sur, disons, la créativité. C'est-à-dire que c'est un camp linguistique, mais en fait, on ne dit jamais aux jeunes parler arménien, on leur fait juste faire des choses chouettes en arménien. Donc c'était un petit peu ça le défi de cette équipe, et j'ai fait partie de l'équipe qui a réfléchi sur un certain nombre de projets autour de ça, et nous avons créé dès la deuxième année, dès la première année du camp en fait, on a créé un diplôme de l'INALCO, un diplôme spécialisé pour de mise à niveau des enseignants des écoles, destiné aux enseignants des écoles du monde entier, et qui impliquait de venir pendant un mois pendant ce camp pour faire des cours qu'on a réalisés à l'intérieur du camp, mais qui faisait que les enseignants étaient au contact, étaient en prise avec un quotidien d'un milieu dans lequel ils voyaient progresser les enfants en langue sans que jamais il y ait un cours, sans que jamais il y ait un milieu, une atmosphère qui ressemblait à une classe, à une salle de classe, etc. Et le but, c'était de les sensibiliser aux méthodes de pédagogie active, aux méthodes de pédagogie centrées vers l'élève et à la pédagogie basée sur le projet. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une doctorante aussi qui a coïncidé aussi avec la période où j'étais au Liban, Anke Albataïn, qui a travaillé sur le rôle des écoles dans la transmission de la langue, avec comme terrain principal le Liban, la Syrie, la Jordanie, mais qui a aussi travaillé en France. Alors, elle a participé aussi à cette formation, et on a notre objectif était un petit peu d'essayer de découpler dans la tête de ces enseignants justement les enjeux idéologiques, ethniques, identitaires, etc., et la transmission de la langue. C'est-à-dire que le fait de faire ce package entier, comme je vous disais, brouille le message et aussi peut avoir toutes sortes d'effets négatifs. Je peux pas rentrer dans le détail ici, mais... Et donc, on a essayé... Le but, c'était de les sensibiliser. Donc, il y avait un cours de développer la pensée critique des élèves dans la classe d'arménien, ce qui n'était pas forcément une priorité avant. La pédagogie basée sur le projet. Moi, j'ai donné un cours de sociolinguistique de l'arménien en essayant d'examiner la situation d'une façon... Non pas d'une façon... téléonomique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut faire. Non, qui sont nos élèves, qu'est-ce qu'on a devant nous, et donc d'essayer de comprendre les besoins, non pas en fonction d'impératifs idéologiques, mais en fonction tout simplement du public qu'il y avait. Donc ça, c'est un peu... Ça a été là une matrice qui, avec le Covid qui est arrivé là-dessus, donc on a fait trois... camps dans lesquels on a formé des promotions d'une quinzaine d'enseignants chaque année, qui ensuite faisaient un stage appliqué dans leur classe. Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, donc, pendant le Covid, on a décidé de faire ces cours-là en ligne. Et le reste, le changement de mentalité a donné le petit coup de pouce pour le reste. Une chose à laquelle je rêvais depuis longtemps, c'était cette préoccupation que j'avais d'avoir autour de moi à l'INALCO une équipe d'une dizaine d'enseignants. Alors, on n'est que trois titulaires, mais il y a des chargés de cours qui sont formidables. et d'avoir un ensemble de compétences extraordinaires, parce qu'en dehors d'Arménie, on est la formation la plus complète au monde en études arméniennes, et d'avoir un rayonnement qui était limité géographiquement. Et donc, ce nouveau réseau, voilà, m'a fait, ah, et puis, puis la, la, le petit peu de disponibilité supplémentaire que nous ont donné les confinements, même si c'était aussi des défis à différents niveaux, mais ça m'a permis aussi de concevoir ce programme de master international, là encore, tourné vers les gens. Voilà, je n'ai même pas envie de mettre un concept là derrière, la demande sociale ou quelque chose comme ça, mais les gens. Et c'est vraiment ça pour moi le grand bonheur que je tire de cette formation maintenant. Alors, l'idée, c'était de proposer une formation entièrement en ligne et entièrement en langue arménienne pour ne pas avoir le frein de la connaissance du français. Et pour en même temps permettre à nos étudiants de réfléchir en arménien, parce que ça aussi, ça venait de toute cette réflexion que j'avais eue. On a eu des discussions, beaucoup de travail avec des collègues. On a fait un colloque en 2015 à l'INALCO sur l'Arménie occidentale 100 ans après, c'était le centenaire du génocide, et où on a eu beaucoup de discussions avec des collègues sur la compartementalisation de la langue, c'est-à-dire la séparation en domaine. On parle du sexe en langue occidentale, on parle du mariage en arménien, on parle de la religion en arménien, on parle de politique en français, on parle de l'avenir en français, on parle du passé en arménien, etc., etc. On voit bien qu'en fait, cette répartition entre deux mondes est très déséquilibrée, et en fait, pousse l'adolescent à abandonner cette langue à 14 ans parce que c'est bon, il a fait plaisir à ses parents et il voit plus tellement d'enjeux derrière. Et donc l'idée, c'était de rejouer ça et de réussir à avoir justement une pensée critique, enfin de rejouer les cartes de cette compartimentalisation et donc faire ces cours entièrement en arménien. L'idée, c'était aussi que certains des enseignants ne soient pas des Arméniens d'origine et ne soient pas des locuteurs natifs d'arménien, mais qu'ils acceptent ce défi de faire leur cours en arménien, et ça, on en a trois, et c'est formidable. Et ça, rien que ça, c'est aussi un message vis-à-vis des étudiants. Bien entendu, alors à distance comme ça, c'était difficile d'envisager un master recherche parce qu'on ne pouvait pas former les étudiants à toutes les dimensions, littérature, sciences sociales, etc., parce que les étudiants souhaitent des sujets très variés, et on ne pouvait pas non plus proposer une formation uniquement en linguistique, c'était appauvrir un peu le vivier. Et donc, j'ai proposé de construire un master professionnel qui est couronné par un stage. On a récupéré une bonne partie des étudiants. Alors, certains étudiants, le diplôme spécial pour les enseignants existe toujours et ils vont toujours au camp pendant l'été, même si moi, j'y vais plus, on fait nos cours en ligne. Et certains décident ensuite de poursuivre avec un master complet. Il y avait une demande de ces enseignants de diplômaison pour titulariser, etc. Et puis, on a aussi des étudiants qui sont journalistes, qui sont travailleurs sociaux, qui sont dans la finance, qui ont rêvé de refaire de l'arménien et qui depuis quelque temps n'en faisaient plus, et qui s'investissent dans des projets autour de l'Arménie occidentale. Donc, on a eu la première année, on pensait créer une formation pour des promotions de 15 étudiants. La première année, on a eu 35 demandes et on a pris 22 étudiants parce que, voilà, il fallait quand même. Et là, sur cette première promotion, on a eu 15 étudiants qui ont reçu leur diplôme cette année. Certains ont retardé la soutenance de leur rapport de stage pour l'année prochaine. Mais voilà, là, on a la dynamique est enclenchée et la diversité des étudiants qu'on reçoit, la dynamique qui se crée entre eux aussi, de cette sensibilité à la diversité de différents pays du monde, mais en même temps de cet intérêt pour l'arménien, et le fait de justement découpler la langue arménienne des sujets traditionnels, mais d'avoir une approche exigeante, critique. Donc voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire, et pour beaucoup de nos étudiants, ça change leur vie. Une des choses aussi, une des leçons aussi qu'on peut tirer de ça, et c'est une chose qui me préoccupe depuis le début, c'est que quand on pense que l'UNESCO a classifié l'Arménie occidentale comme langue en danger, eh bien, un des réflexes de beaucoup d'acteurs, c'est de dire, oh là là, il faut créer des cours de langue pour les débutants. Et oui, bien sûr, il faut tout. On a besoin de tout. On a besoin d'un dictionnaire comme Parastan. On a besoin de toutes sortes d'initiatives. Mais il faut aussi penser aux gens qui ont une bonne compétence en langue et qui sont d'une certaine façon orphelins, c'est-à-dire qui n'ont plus le contexte pour qui n'ont pas de milieu stimulant intellectuellement dans lequel réfléchir en arménien. Et en fait, ces locuteurs-là, mais ils sont destinés à être la locomotive de la langue pour la suite. Et je dois dire que ils en ont tout à fait conscience, sans, là encore, pas d'un point de vue idéologique, tout simplement par les faits, et ils en sont tout à fait enthousiasmés. Et ça, pour beaucoup, ça leur ouvre aussi des perspectives professionnelles, bien entendu.
Pour terminer, j'aimerais qu'on évoque le LabEx EFL dont vous êtes co-directrice depuis sa création. Je suis curieux d'avoir votre avis sur l'importance de se fédérer finalement avec d'autres linguistes d'horizons différents pour créer et explorer de nouveaux savoirs. En quoi c'est important pour vous?
Poser cette question maintenant, Maxime, c'est presque une évidence parce qu'en fait, on n'arrive plus à imaginer comment on pourrait travailler comme on travaillait avant, c'est-à-dire dans des laboratoires isolés les uns des autres. Avec le LabEx EFL, on a quand même réuni 13 laboratoires qui avaient des approches très très différentes, traitement automatique des langues, phonétique expérimentale, linguistique formelle, générativiste, avec les différents modèles générativistes. On avait des gens qui travaillaient en épistémologie. Et puis les linguistes de terrain, donc dont je fais plutôt partie. Et en fait, c'était vraiment des groupes, comment dire, des entités qui avaient des méthodologies, des cadres de réflexion assez différents et qui bénéficiaient pas les uns des autres. Aujourd'hui, eh bien, on partage des méthodes en linguistique expérimentale, on partage nos connaissances sur la diversité des langues, enfin, et on partage tout simplement notre stock de langues parce que si beaucoup de laboratoires du LabEx EFL peuvent se targuer d'avoir accès aujourd'hui à plus de 100 langues, ben grâce aux laboratoires comme Cédille, le Lacito, le Lacan, en fait, qui travaillent sur la diversité des langues et sur des terrains très variés. Donc, en fait, il y a un apport réciproque en termes de visibilité d'une part, mais aussi réellement en termes de façon de travailler. Je parlais des méthodes expérimentales, mais il y a la gestion des corpus, il y a les types d'annotation des corpus qui donc dépassent le cercle de ceux qui travaillaient sur la linguistique de corpus auparavant. On a pu mettre en place des formations partagées, on a pu mettre en place, et puis cette sensibilisation aux questions de valorisation, comme je vous le disais, pour lequel on n'était pas tous égaux au départ. Et pour certains, c'était vraiment un objet non identifié, la valorisation, ou au-delà de conférences publiques ou de choses comme ça. Et donc voilà, il y a eu une sorte de ce brassage a été vraiment extrêmement bénéfique à tout point de vue, et pour nos étudiants encore plus, parce qu'ils se forment dans un contexte qui est, quand je me rappelle les conditions dans lesquelles j'ai fait ma thèse, hein, dans une sorte de quasi tête-à-tête avec mon directeur de thèse, et quand je dis tête-à-tête, c'était beaucoup, parce que si je compte les heures que j'ai passées avec lui pendant toute ma période de thèse, je me demande si ça ferait une journée entière, eh bien, vraiment, ça n'a plus rien à voir. Et voilà, c'est ce chemin qu'a parcouru la linguistique parisienne, on peut dire, mais ça s'est fait aussi ailleurs, dans d'autres sites en France, grâce aux différents LabEx. Mais c'est notre LabEx qui est le plus gros LabEx de sciences du langage, notre LabEx parisien. Et véritablement, on a su créer un paysage totalement différent. Alors, il reste des tropismes un peu différents entre les équipes, entre les tutelles, entre les diplômes. On n'a pas toujours les diplômes, on a certains diplômes cohabilités. facilité, mais pas toujours. Donc, il y a une, moi, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre idéal entre une synergie forte et en même temps, la diversité de chacune des entités qui reste là et qui donne, pas juste pour aimer la diversité, c'est que en recherche, la diversité, ça crée des portes pour prendre des risques dans des orientations imprévues et donc pour ouvrir de nouveaux chemins de recherche.
Les perspectives sont riches, en effet, avec le LabExo EFL et avec vos travaux, Anaïd. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Vox. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt.
Merci, Martin. Au revoir.
Le travail d'Anaïd Donabédian-Demopoulos nous rappelle l'importance fondamentale que revêt la linguistique dans la documentation, la transmission et l'analyse des langues qui fondent l'identité d'une personne. Il nous rappelle que les travaux dans le domaine répondent, au-delà de l'intérêt scientifique, à une demande sociale. Au sein du LabExo EFL, les travaux d'Anaïd Donabédian-Demopoulos mettent aussi en valeur l'importance de la valorisation de la recherche scientifique pour aider concrètement nos sociétés à progresser vers plus d'inclusivité, de justice et de dialogue. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt !